C'était un petit homme chétif, à l'air malicieux et boyeur. Cigarette au bec, le commandant Lionel Crabbe, presque toujours photographié sur le pont d'un bateau en tenue d'homme grenouille, semblait se moquer du monde. Et puis, un jour d'avril 1956, le petit homme a disparu. Et cette disparition a failli provoquer un incident diplomatique grave entre la Grande-Bretagne et l'URSS et de vives polémiques au Parlement de Londres où le Premier ministre, Anthony Eden, a été mis sérieusement en difficulté. Si M. X a choisi cette semaine de me parler de Lionel Crabbe, c'est que le secret demeure sur les conditions de sa disparition. Et certains continuent à penser encore qu'il n'est pas mort en 1956 et qu'il a été enlevé et détenu quelque part à l'Est. M. X, lui, m'a proposé une explication inédite sur la fin de l'homme grenouille. A-t-il disposé d'informations privilégiées puisées au sein des services secrets britanniques? Vraisemblablement. Mais, comme à son habitude, il a refusé de m'en dire plus. Alors, avant d'entendre l'enregistrement que j'ai réalisé avec lui, voyons d'abord qui était le petit homme grenouille disparu en avril 1956 dans des circonstances mystérieuses. La vraie vie de Lionel Crabbe commence en 1941. Je dis sa vraie vie parce qu'auparavant, le jeune homme, il a alors 30 ans, a exercé divers métiers sans véritablement trouver sa voie. En 1939, à la déclaration de guerre, il a voulu s'engager dans la marine. Mais le conseil de révision l'a refoulé. Trop petit, trop frêle, santé chétive, myopie extrême, Crabbe ne pouvait être marin de sa majesté. C'était mal connaître le petit homme. À force d'obstination, il parvient quand même à se faire engager dans la réserve. Et bientôt, le voici gratte-papier dans un bureau de la marine à Gibraltar. Un détail qui ne manque pas de piquant quand on connaît la carrière qu'il va faire. En 1939, Crabbe ne savait pas nager. Le 19 septembre 1941, un pétrolier anglais ancré dans la rade de Gibraltar est soudain la proie des flammes. Peu après, deux autres bâtiments explosent. Que s'est-il passé? Une attaque de sous-marin? Mais c'est impossible. Des filets en acier interdisent l'accès de la rade. Des scaphandriers plongent. Ils découvrent que de larges trous ont été pratiqués dans les filets. Le port de Gibraltar a été victime d'une attaque d'hommes grenouilles. La technique, mais les Britanniques ne le savent pas encore, est entièrement nouvelle. Et elle a été mise au point par les hommes du prince italien Valerio Borghese. Revêtus de combinaisons étanches, chaussés de palmes et munis d'appareils respiratoires portatifs, ces combattants chevauchent des torpilles électriques qu'ils guident jusqu'à proximité de l'objectif. Ils détachent alors la pointe qui contient des explosifs et rebroussent chemin tandis que l'avant de la torpille continue à filer vers sa cible. Il existe donc désormais des combattants du fond des mers. Lionel Crabbe, modeste rond de cuir de la réserve de la marine, ose. Il propose à l'amirauté la création d'une équipe capable de contre-attaquer et pourquoi pas d'attaquer à son tour les navires ennemis. Le plus extraordinaire, c'est qu'on écoute cet homme qui n'a rien, mais rien du tout d'un athlète. Ainsi va naître le corps des hommes grenouilles britanniques, des hommes qui vont accomplir de véritables exploits pendant la guerre et parmi eux, Lionel Crabbe, le plus célèbre d'entre eux.
Crabbe était certainement un type assez étonnant.
Attends, là, vous en parlez au passé, donc vous êtes certain qu'il est mort.
Bien entendu, je vous expliquerai comment.
Bon, d'accord. Alors, pourquoi était-il étonnant, comme vous dites?
Parce que sans payer de mine, c'était un garçon extrêmement courageux. Dès qu'il avait ses palmes aux pieds, Crabbe devenait un autre homme. Songez, mais on a sans doute exagéré, que Crabbe était incapable de faire une longueur de piscine.
Ça me semble en effet un peu curieux. Mais,
que voulez-vous, Crabbe lui-même a peut-être contribué à enrichir sa propre légende. Plus il apparaissait faible et plus ses exploits semblaient prodigieux.
Mais il faisait une force de sa faiblesse.
Voilà. Mais enfin, passons. Ce qui est vrai, c'est qu'il s'est lancé dans l'aventure avec des moyens dérisoires.
C'est-à-dire, ça?
Eh bien, en créant de toutes pièces cette équipe d'hommes grenouilles, il a dû improviser. Et les premiers membres de cette section devaient avoir une sacrée touche. Avec leurs costumes de bain, leurs chaussures de tennis lestées de plomb et leurs vieilles bouteilles d'oxygène attachées tant bien que mal dans leur dos. Mais ils ont quand même été sacrément efficaces et tous ont été décorés après-guerre.
Ouais. Mais justement après-guerre, alors, qu'est devenu Lionel Crabbe?
D'abord, il n'a pas été démobilisé tout de suite. Il a participé avec ses adversaires de la veille, les hommes grenouilles italiens, au déminage des ports, puis il a dû se réadapter à la vie civile.
Mmh. Et qu'est-ce qu'il a fait alors ?
Il a créé, avec un associé, une petite fabrique de meubles.
Mmh, de meubles, tiens. Il n'a quand même pas renoncé à la plongée sous-marine. Hein.
Bien entendu. Il a continué à travailler comme contractuel pour l'amirauté et surtout pour les services spéciaux.
Et pour effectuer quel genre de mission ?
Bah, les services ont toujours besoin de spécialistes de ce genre. Nous-mêmes, nous avons des nageurs de combat. Sont eux qui constituent le gros de notre service action.
Donc Crabb a effectué des missions secrètes.
Bien sûr.
Une parenthèse, quel genre d'homme était-ce ?
Je ne l'ai pas connu. Mais ceux qui l'ont fréquenté ont tous raconté que c'était un bon vivant qui ne refusait jamais un verre et aimait particulièrement les jolies femmes.
Un homme normal, quoi.
Si vous voulez.
Bon, alors, venons-en à sa disparition.
En avril 1956, la Grande-Bretagne attend la visite de Bulganine et Khrouchtchev, B et K, comme on les appelle dans la presse.
Oui, ouais, ils se baladent encore la main dans la main. Hein,
oui, Khrouchtchev n'exerce pas encore le pouvoir tout seul. Et d'ailleurs, le couple exerce une certaine séduction sur l'opinion internationale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Bulganine, avec sa petite barbiche paisible de grand-père, ouais. Et Khrouchtchev, rond, jovial, bonhomme, enfin, apparemment bonhomme.
Ouais, le style débonnaire.
Ouais, il fallait bien faire oublier Staline. Mais en 1956, il ne faut pas l'oublier, il y aura bientôt la Hongrie. Et on verra que le débonnaire Khrouchtchev a aussi une poigne de fer.
D'accord. Donc, B et K viennent en Angleterre.
Une visite importante et attendue à l'heure où l'URSS se dégèle. Les deux dirigeants soviétiques ont choisi un moyen de transport insolite. Ils viennent en bateau sur un splendide croiseur, Lord Zonikidze.
Mmh. Il y a une raison pour ce
franchement,
choix,
franchement, j'en sais rien. Non. Ce qui compte dans cette histoire, c'est que ce croiseur appartient à une nouvelle race de bateaux.
Ah, et comptent-ils de nouveau ces bateaux ?
Ils sont extrêmement rapides. Et ils disposent de systèmes de navigation qui leur permettent, par exemple, de mouiller dans un port sans l'aide de pilotes ou de remorqueurs.
Et vous avez une idée de la nature de ces nouveaux systèmes ?
Non, je ne suis pas un spécialiste de la marine, mais bon. Je pense qu'ils devaient sans doute être équipés d'hélices auxiliaires. Ces innovations excitaient bien sûr la curiosité des marins occidentaux.
Et des marins qui voulaient percer leurs secrets.
Mais naturellement. Et quelques temps plus tôt, à l'occasion de la visite en Angleterre d'un autre croiseur de ce type, le Sverdlovsk, notre ami Crabb avait fait une plongée indiscrète.
Plongée pour observer quoi, la coque, les hélices.
Oui, mais vraisemblablement ouais. Pour le compte des services secrets.
Ouais. Donc les Anglais savaient à quoi s'en tenir.
Exactement.
Sur ce nouveau bateau. Ouais. Ouais.
Ouais, c'est très important. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Lord Zonkidze, avec à son bord Bulganine et Khrouchtchev, entre dans le port de Portsmouth le matin du 19 avril 1956. Il doit y rester mouillé pendant la durée de la visite des deux soviétiques. Mais depuis 2 jours déjà, Lionel Crabb se trouve sur place.
Encore une mission d'espionnage.
Bon, on verra bien plus tard. L'homme grenouille est arrivé 2 jours plus tôt en compagnie d'un grand type blond qui se fait appeler Smith.
Smith, c'est pratique.
Bien sûr, ça sent l'identité d'emprunt. Mais notez que Crabb, lui, est descendu à l'hôtel sous son vrai nom.
Donc lui ne se cache pas.
Apparemment pas.
Mais qu'a-t-il fait avant l'arrivée du croiseur de messieurs B et K ?
Ben, d'après ce qu'on a pu apprendre plus tard, rien de bien spécial. Seul, il est allé chez le coiffeur, il a téléphoné à plusieurs reprises à son associé resté à Londres, et il a fréquenté les pubs.
Il attend ?
Oui.
Ouais. Et l'autre, là, le Smith, là, que fait-il ?
Mystère. Le 19 avril, au petit matin, 2 ou 3 heures avant l'arrivée de Lord Zonikidze, Crabb et son ami Smith sortent. En remettant leurs clés, ils disent à l'hôtelier qu'ils sont de retour dans l'après-midi.
Et où vont-ils ?
Nul ne le sait. Smith revient dans l'après-midi.
Seul, donc ?
Oui, seul. Il règle sa note, prend ses bagages et s'en va. On ne reverra jamais l'homme qui se faisait appeler Smith.
Et Crabb ?
Bah lui non plus, on ne le reverra jamais.
On va revenir en détail sur la mystérieuse disparition de l'homme grenouille, Crabb. Mais avant de reprendre la diffusion de mon entretien avec Monsieur X, je voudrais vous lire ces lignes extraites d'un livre de Kurt Singer et Jane Sherrod, Les espions qui ont changé l'histoire. Ils y racontent l'un des exploits de Crabb dans la rade de Gibraltar. L'homme grenouille parle à la première personne. Je me trouvais alors à 15 mètres de profondeur. L'ombre s'approcha. Je pus voir ses yeux globuleux et ses longues mains blanches. C'était un homme grenouille italien. Il m'attaqua tout de suite, il donnait le couteau le plus pointu et le plus impressionnant que j'ai jamais rencontré. Je tirai le mien pour parer le coup et notre duel commença. Un de nous deux devait mourir, les deux peut-être. Un duel sous-marin. Ce livre au ralenti avec des mouvements à la fois langoureux et maladroits. Je pense que nous devions faire un étrange spectacle, mais il n'y avait personne pour nous voir et aucun d'entre nous n'avait le temps de réfléchir au spectacle qu'il donnait. Ce fut l'équipement de mon adversaire qui me donna l'avantage. Il était plus lourd, plus encombrant. Mes souliers de tennis et mon vieux costume de bain me laissaient les mouvements libres. Je plongeais mon canif, fendis sa combinaison. Je vis monter de grosses bulles d'air. Il se débattit tout en coulant. 4 jours plus tard, nous avons repêché son corps dans la baie. À l'évidence, si ce récit est exact, le commandeur Crabbe avait les nerfs solides.
Crabbe disparaît donc le 19 avril 1956. 2 jours plus tard, il se passe quelque chose de très curieux.
Très curieux, racontez.
Un homme se présente à l'hôtel où sont descendus l'homme grenouille et l'étrange Monsieur Smith. Il montre à l'hôtelier une carte de police et demande à voir le registre des clients. Naturellement, le commerçant s'exécute. Et le policier s'enferme dans un salon avec le registre.
Jusque-là, je ne vois rien de bien anormal.
Vous avez raison, mais écoutez ce qui suit. Le policier ressort avec le registre qu'il tend à l'hôtelier et il dit « J'agis sur ordre de l'autorité supérieure ». Puis il sort. Et quand l'hôtelier ouvre son registre, il constate que des pages ont été arrachées. Les pages où figuraient justement les noms de Crabbe et de Smith.
Donc on veut effacer toute trace de leur passage à Portsmouth, c'est ça? Mais vous avez une explication?
Bah, ça signifie au moins que la présence de Crabbe était connue des autorités, vous êtes d'accord?
Oui, mais ça signifie... Est-ce que ça signifie aussi que ces autorités savent ce qui est arrivé exactement à Crabbe?
Entrer au lieu, évidemment. La meilleure preuve, c'est que ce qui se passe peu après l'étrange visite de ce policier. Un ami de Crabbe, un homme grenouille, lui aussi, se propose de plonger dans les eaux du port afin de faire des recherches. Aussitôt, un officier de marine l'en dissuade. Inutile, vous ne trouverez rien.
Donc cet officier semble savoir...
Oui, et lorsque l'ami de Crabbe lui demande des explications, l'officier répond qu'il ne peut rien le dire car il est tenu au secret.
Ouais. Est-ce que cette disparition de l'homme grenouille est vite rendue publique?
Assez vite, oui. Ses amis, son ex-femme, sa nouvelle petite amie donnent l'alerte. Et la presse, à son tour, s'empare de l'affaire. Elle ne manque pas de faire le rapprochement entre la disparition de Crabbe quelque part du côté de Portsmouth et la présence du croiseur soviétique.
Les journalistes interrogent donc les autorités.
Et d'abord les autorités maritimes.
Ouais.
Embarras. L'amirauté affirme d'abord qu'elle ne connaît rien de cette affaire. Puis une dizaine de jours plus tard, elle publie un communiqué qui dit en substance que le commandant Crabbe a trouvé la mort au cours d'une plongée à la suite d'une avarie de son appareil respiratoire.
Et où?
Dans une baie voisine de Portsmouth, à 3 milles environ du port où était mouillé Lorenzo Nikitze.
Ouais. C'est en tout cas pratiquement l'aveu que Crabbe était en mission pour la marine britannique, ça.
Exactement. Et d'ailleurs, bientôt, un officier supérieur de la Royal Navy, sous couvert d'anonymat, va faire des révélations d'importance.
Ouais, je vous écoute.
Il affirme que Crabbe est mort vers 10 heures du matin alors qu'il se trouvait à une trentaine de mètres du croiseur soviétique.
Oui, mais comment est-il mort?
Alors, l'officier dit qu'il n'en sait rien. Mais il déclare encore qu'on n'a fait aucun effort pour que le corps soit découvert.
Un mystère, là, pour quelle raison?
Bon, pour éviter toute enquête. Et il a ajouté très mystérieusement qu'il serait diplomatiquement inopportun de retrouver le corps de Crabbe.
Inopportun, mais comment interprétez-vous cette dernière et étrange phrase?
Ce marin voulait certainement dire que la manifestation de la vérité entraînerait des difficultés avec les soviétiques.
Donc en tout cas pour vous, il est sûr que la disparition de Crabbe a un rapport avec la présence du croiseur soviétique à Portsmouth?
Évidemment, même si on a ensuite raconté n'importe quoi à ce sujet.
Bon d'accord, mais cette déclaration de l'officier de la Royal Navy peut laisser supposer qu'il s'agit bien d'une affaire d'espionnage. Un Crabbe aurait pu être surpris par des marins soviétiques en train d'observer la coque du croiseur.
C'est vrai. Sur le moment, tout le monde y a pensé. Et aussitôt, l'opposition travailliste a violemment interpellé le Premier ministre, Anthony Eden. Pour ses députés, la tentative d'espionnage opérée par Crabbe était scandaleuse et choquante. Elle équivalait à fouiller les bagages de gens qu'on avait invités.
Mmh. Oui. Et comment s'est défendu le Premier ministre?
De façon étrange. Il a d'abord reconnu que le célèbre homme grenouille britannique avait en effet été chargé d'une mission d'espionnage. Mais cette opération avait été décidée à l'insu du gouvernement.
C'était une sorte de façon de désavouer Crabbe.
Tout à fait. Et comme les députés de l'opposition ne se satisfaisaient pas d'une telle réponse, Anthony Eden a ajouté qu'il ne serait pas dans l'intérêt public de dévoiler les circonstances de la disparition de Crabbe.
Un secret d'État, c'est
oui.
Ça.
Ouais. Et après cette déclaration, silence sur toute la ligne.
Oui, mais les soviétiques, ils n'ont pas pu rester sans réagir.
Naturellement, mais ils sont restés étrangement mesurés.
Et pourquoi étrangement?
L'offense était quand même de taille. C'était le bateau des deux dirigeants les plus importants de l'URSS qui avait été espionné. Et on pouvait s'attendre à ce que le bouillant Monsieur K pique une de ses colères dont il était coutumier. Eh bien non.
Eh bien, vous avez une explication alors.
Oui, mais on y viendra tout à l'heure.
Encore un de vos mystères?
Allons, vous m'avez habitué un petit peu plus de patience.
Non, soit, puisque c'est vous, n'importe comment, qui en faites à votre tête.
Privilège de l'âge, Monsieur Penaud. simple. On sait bien que les réponses sibyllines d'Eden n'ont pas apaisé la curiosité des journalistes ni satisfait la famille de Lionel Kramer.
Ça me semble normal.
Et la presse s'est intéressée en particulier aux curieux, M. Smith. Les meilleurs limiers des journaux londoniens se sont lancés sur sa piste, mais en vain.
Mais vous, vous avez certainement une idée.
Bien sûr.
Alors, qui était-ce, Smith?
Un agent spécial.
Ça renforce encore la thèse de l'espionnage. Hein?
Oui et non.
Et pourquoi?
Parce que dans les services spéciaux, nous ne pratiquons pas seulement le renseignement. Mais pourquoi voulez-vous aller trop vite?
C'est vous qui me parlez, Smith.
D'accord. J'évoquais aussi la famille de Kramer, son ex-femme. Sa mère ne voulait pas croire à sa mort.
Une intuition ou un petit peu plus
Sa mère avait reçu un message de son fils avant qu'il ne se rende à Portsmouth. Il écrivait qu'il partait en mission et lui demandait de ne pas s'inquiéter.
Un message pas très rassurant, au contraire. Hein.
Ouais. Oui, mais une mère ne se résigne pas. Elle savait que Crabbe avait vécu des aventures autrement plus dangereuses. Puis il y avait ce coup de fil que Crabbe aurait donné à l'un de ses collaborateurs.
Qu'est-ce que c'est que ça?
2 heures après avoir quitté l'hôtel, Crabbe aurait appelé ce type à Londres.
Mais qu'aurait-il dit?
J'ai plongé ce matin, mais ça n'a pas marché. Je vais recommencer cette nuit. Souhaitez-moi bonne chance. Or, selon la version de l'amirauté, à l'heure où Crabbe téléphone, il devrait se trouver dans l'eau.
Et vous croyez à la réalité de ce coup de fil?
Pas beaucoup, non. Mais après tout, pourquoi pas? Ce qui est important, voyez-vous, et qui conforte la conviction des proches de Crabbe, c'est le mystère qui entoure cette affaire. Toutes ces questions auxquelles on refuse de leur donner des réponses. Il est donc normal qu'ils finissent par penser qu'on veut leur cacher quelque chose.
Et ils refusent de croire à la mort de Crabbe telle qu'elle est présentée, en tout cas par les autorités.
Oui, d'autant que l'hypothèse de l'accident de plongée ne leur paraît pas crédible. L'homme grenouille était excessivement prudent. Son matériel était en excellent état et les eaux du port de Portsmouth peu profondes.
Alors que comment ces familiers là, de Crabbe expliquent-ils la disparition?
Eh bien, ils pensent qu'en inspectant la coque de Lord Zonikidze, Crabbe a été surpris et fait prisonnier par les soviétiques et qu'il a été emmené en URSS. Prise en flagrant délit d'espionnage, les autorités britanniques auraient été obligées de se taire et de laisser partir l'homme grenouille sur un navire qui bénéficiait par ailleurs du privilège d'extraterritorialité et qu'il ne pouvait donc pas fouiller.
Les silences de Sir Anthony Eden ont beaucoup fait parler et suscité une multitude d'interrogations. Voici par exemple ce que l'on peut lire dans le journal Le Monde du 11 mai 1956. Chacun se demande comment les services secrets de l'amirauté ont pu assumer le risque d'un incident international extrêmement grave à un moment où les chefs politiques du pays étaient engagés dans d'importantes négociations dont dépend, en partie du moins, le sort de la paix. L'attitude de l'amirauté est encore plus surprenante si l'on tient compte des efforts entrepris pour camoufler la disparition du commandant Crabbe. La police elle-même, cette magnifique police dont les Anglais sont si fiers, a joué un rôle très peu reluisant dans l'affaire. Un ancien ministre du Labour, M. Dugdale, a en tout cas posé quelques questions qui jettent une lumière très crue sur la façon dont les services de police et d'espionnage ont coopéré dans cette mésaventure. Un inspecteur ne s'est-il pas rendu à l'hôtel de Portsmouth pour arracher les pages sur lesquelles le commandant Crabbe avait inscrit son arrivée? Ne s'agissait-il pas ainsi de faire disparaître le nom de l'autre officier qui accompagnait l'homme grenouille? Le personnel de l'hôtel n'a-t-il pas été sommé de garder le silence sous peine de poursuite en vertu de la loi sur les secrets officiels? Et plus loin, le journaliste Jean Wetz écrit encore: le silence officiel empêche également de savoir quel a été le véritable sort de l'homme grenouille. Il ne serait pas sans intérêt d'apprendre si les Russes ont surpris l'officier britannique au cours de sa mission et ce qu'ils en ont fait. Une interrogation qui nous ramène tout naturellement au récit de M. X.
Naturellement, comme vous pouvez l'imaginer, les Soviétiques ont nié toute responsabilité dans la disparition de Kramer. Et on finit par oublier l'affaire. Il faut dire que cette année 56 est assez agitée.
Ah oui, 56, c'est la Hongrie, l'expédition de Suez.
Oui, mais soudain, en juin 57, donc plus d'un an après la disparition de l'homme grenouille, coup de théâtre. Des pêcheurs repèrent un corps qui flotte entre deux eaux.
À quel endroit exactement?
Près du port de Chichester, c'est-à-dire pas très loin de Portsmouth.
Et ils récupèrent le corps?
Bien sûr. Et ils ont la macabre surprise de découvrir que le corps n'a ni tête, ni bras. Autre chose, il semble vêtu d'une sorte de combinaison en caoutchouc.
Une tenue d'homme grenouille.
Exactement. Et très vite, on pense à Crabbe.
Mais si c'était lui, après avoir séjourné plus d'un an dans l'eau, le corps devait être dans un sale état, non?
Sûrement. Et entre nous, c'est même étonnant qu'il en reste quelque chose. En tout cas, on autopsie le cadavre, la taille semble coller avec celle de Crabbe, et la tenue de plongée paraît correspondre au matériel qu'utilisait l'homme grenouille. Et au bout de quelques jours seulement, le coroner du lieu décide qu'il s'agit bien de Lionel Crabbe, malgré les réticences de son ex-femme qui hésite à reconnaître son époux.
Vous semblez dire là que ce verdict du coroner a été bien précipité.
Oui, parce qu'il y avait quand même le mystère de l'absence des bras et de la tête.
Bah, comme si on avait voulu rendre toute identification impossible.
Bien sûr.
Ouais. Alors
bon, on enterre le présumé Crabbe. À noter très curieusement qu'aucun représentant de la Marine Royale n'assiste à ses obsèques.
Il faut en conclure quelque chose ?
Oui, qu'il y avait au moins quelques doutes sur la véritable identité du cadavre. D'autant qu'on apprend dans le même temps qu'à l'époque où on a repêché le corps, des sous-marins soviétiques ont croisé au large de Portsmouth.
Et quel rapport on peut établir, hein ?
Bah, reprenons l'hypothèse de Crabbe fait prisonnier par les marins soviétiques alors qu'il explose Lord Zonikidze. L'homme grenouille est emmené en URSS, là il est interrogé, retourné.
Mais quel est l'intérêt de retourner un homme grenouille ?
Crabbe, ne l'oubliez pas, était en contact avec les services secrets pour lesquels il était en quelque sorte contractuel. Donc il a peut-être des choses à révéler. Mais ce n'est pas tout. Crabbe est un as de la plongée sous-marine, un pionnier. Pourquoi ne pas utiliser ses connaissances techniques ?
Pour former des hommes grenouilles russes ?
Exactement.
Mais oui, mais alors, le cadavre retrouvé en mer ?
Un leurre.
Un faux crabe, si je puis dire.
Oui. Les soviétiques se seraient servis du cadavre d'un homme ayant à peu près les mêmes caractéristiques physiques que Crabbe. Après lui avoir coupé les bras et la tête, puis l'avoir revêtu de la vraie tenue de plongée de l'homme grenouille, il l'aurait largué au large de Portsmouth.
Et dans quel but, dans quel objectif ?
Pour faire en sorte que Crabbe soit vraiment considéré comme mort afin qu'il puisse mener en toute quiétude sa seconde vie en URSS.
Ça vous paraît crédible ?
Avant de répondre à votre question, je vous signale que 3 ou 4 ans après la disparition de Crabbe, un journaliste, Bernard Hutton, publie un livre où il raconte par le détail comment l'homme grenouille a été capturé par les soviétiques et envoyé en URSS. Il donne des noms, des lieux. Il explique comment Crabbe a fini par craquer et accepter de travailler pour les Russes.
Quelles sont les sources de ce journaliste ?
Les services secrets britanniques qui auraient eux-mêmes été informés par un de leurs agents infiltré en URSS. Crabbe serait désormais capitaine dans la marine soviétique et il s'appellerait Lev Lyovitch Korablev. Mieux, ce journaliste produit une photographie représentant quelques officiers soviétiques. Parmi eux, l'ex-femme de Crabbe reconnaît formellement celui qui a été son mari.
C'est quand même troublant tout ça.
Vous avez raison. Enfin, il faut savoir que cette photo est très floue. Quant au journaliste, on peut légitimement nourrir quelques soupçons.
Ah, que voulez-vous dire, hein ?
Hutton est un Tchèque réfugié en Angleterre après avoir été militant communiste dans son pays. Ne participe-t-il pas à une opération d'intoxication anti-soviétique ?
Ouais, mais à votre avis ?
Je n'ai jamais cru à cette hypothèse farfelue. Les soviétiques, je les connaissais bien, n'auraient jamais monté une opération aussi sophistiquée que celle du largage par sous-marin d'un cadavre ressemblant à Crabbe uniquement pour dissimuler la nouvelle vie de l'homme grenouille. Crabbe avait certes des talents, mais son éventuel retournement ne méritait pas de tels efforts. J'ajoute qu'à l'Est, on n'avait nul besoin des connaissances de Lionel Crabbe pour former des hommes grenouilles.
Oui, mais il faut quand même maintenant expliquer la disparition de Crabbe, si vous voulez en tout cas. Ouais.
J'y viens. L'année 1956 commence très mal pour les Britanniques. En février, en effet, on note la réapparition surprise de deux hommes bien encombrants.
Qui ?
Les diplomates, Burgess et Maclean.
Ah oui, les amis espions de Kim Philby, hein, la fameuse équipe de Cambridge.
Oui, ils se sont évanouis dans la nature au début des années 50, alors qu'ils allaient être démasqués comme espions soviétiques. Sans doute prévenus par Philby, d'ailleurs. Et soudain, au début de 56, ils réapparaissent à Moscou, où ils donnent une conférence de presse afin de justifier leur défection. Cela provoque donc un véritable choc dans l'opinion publique britannique et une tempête dans les services spéciaux qui s'estiment bafoués.
Non, sans raison. Hein.
Ouais. Et alors même que Philby, soupçonné lui aussi de travailler pour le KGB, vient d'être blanchi, réintégré et envoyé à Beyrouth sous couverture d'un poste de correspondant de l'Observer.
C'est à Beyrouth d'ailleurs qu'il sera découvert, mais plus tard.
Tout à fait. Donc cette tempête dans les services secrets s'accompagne d'une recrudescence de la rivalité traditionnelle entre le MI6, le service de renseignement, et le MI5, le contre-espionnage.
Il faut rappeler que Philby, lui, appartenait au MI6.
Oui. Oui, mais c'est le MI5 qui lui cherchait des poules dans la tête et l'avait fait même traduire devant un tribunal secret. Vous imaginez bien que ça n'avait pas contribué à améliorer les rapports entre les deux services.
Et c'est dans ce climat-là de rivalité qu'est annoncée la prochaine visite de Monsieur B et de Monsieur K.
Voilà. Le contre-espionnage décide donc de redoubler de prudence. En Grande-Bretagne, comme dans d'autres pays, il existe des organisations clandestines anti-soviétiques qui pourraient être tentées de saboter le voyage des deux dirigeants communistes en perpétrant un attentat, par exemple.
Un attentat contre le croiseur soviétique ?
C'est une possibilité. Le contre-espionnage envisage donc l'organisation d'une surveillance particulièrement vigilante du navire. Crabbe et le mystérieux Monsieur Smith, tous deux excellents hommes grenouilles, sont chargés de cette mission.
Alors, selon vous, c'est pas du tout d'une mission d'espionnage.
Mais non. Expliquez-moi ce que vous pouvez apprendre en examinant la coque d'un navire. Et puis je vous rappelle que Crabbe avait déjà plongé sous la coque d'un croiseur du même type. Donc, s'il y avait des secrets à surprendre, par exemple la nature des hélices et leur nombre, c'était déjà fait.
Ouais. Alors que se passe-t-il réellement ?
Dans le service rival, un homme, sans doute une taupe qui a des contacts avec le KGB, avertit cyniquement les soviétiques, des hommes grenouilles vont tenter d'espionner votre croiseur. Les marins russes sont donc aux aguets, ils surprennent Crabbe, le tuent. Smith, lui, parvient à s'enfuir.
Et les soviétiques protestent ?
Bien sûr. Mais les autorités britanniques embarrassées expliquent quelle était la véritable mission de Crabbe.
C'est-à-dire la surveillance, en fait, du croiseur.
Tout à fait. Les deux parties conviennent donc de ne pas envenimer l'affaire, alors même que des discussions au plus haut niveau sont engagées. Cela explique la relative mesure de Moscou et les explications embrouillées du Premier ministre britannique.
Je veux bien vous croire, mais il y a quand même ce corps qu'on a repêché.
C'était celui de Crabbe.
Oui, mais pourquoi avait-on tranché la tête et les bras alors?
Mais pour éviter son éventuelle identification.
C'était donc les marins russes, alors?
Oui. Et le corps a dû être volontairement coincé sous un obstacle afin qu'on ne le retrouve pas. Mais il a fini par remonter à la surface. J'ajoute que près de 10 ans après ces événements, un crâne a été retrouvé sur une plage. C'était celui de Crabbe.
Je dois tout de même à la vérité de dire que ce crâne, malgré les examens dentaires effectués, n'a jamais été formellement identifié comme étant celui de l'homme grenouille. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'à l'issue de cette affaire, les autorités britanniques ont remis de l'ordre dans leur service secret. Le général Sir John Sinclair, patron du MI6, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Et il a été remplacé par Dick White, le directeur du service rival, le MI5.